Alors bonjour à tous, je suis très heureux d'être présent et je vous prie de m'excuser avec ce retard qui est lié au fait qu'on pensait prendre le train pour venir vous rejoindre. Et ce matin, on a dû se rendre compte que ce n'était pas possible. Donc on a pris une voiture, mais ça nous a pris un peu plus de temps. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous, d'abord par une présentation, comme on dit. Je vais vous faire une présentation d'une quarantaine de minutes maximum, et puis d'avoir un échange, vos questions. Mais ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez m'interrompre si vous avez des questions au fil de mon exposé. Peut-être pas tout le temps, mais enfin, n'hésitez pas quand même à me poser des questions, à m'interrompre s'il y a soit quelque chose que vous ne comprenez pas très bien, soit que vous souhaitiez intervenir sur ce que je vous présente. Donc l'objet de cette conférence, de cet échange avec vous, c'est de parler de l'énergie. Alors je l'ai intitulé « L'énergie et ses enjeux au début du 21e siècle ». C'est-à-dire, la conférence que je vais faire, ce n'est pas une conférence scientifique, je ne vais pas parler de la loi de la relativité ou de ce que vous pouvez apprendre en première, parce que je crois que la plupart d'entre vous sont en première ou en seconde, bien que l'énergie soit très présente, évidemment, dans l'enseignement que vous avez, mais c'est plus du point de vue de la société, des enjeux auxquels nous aurons, et vous aurez, vous plus encore que moi, vous qui êtes plus jeune, à faire face au cours de ce 21e siècle, parce que je crois qu'il y a beaucoup de problématiques, comme on dit, qui sont liées à l'énergie. Donc je l'ai intitulé « L'énergie et ses enjeux au début du 21e siècle ». Donc ce sera une conférence plus à caractère, je vais dire, économique et politique, au bon sens du terme, je l'espère. Donc ce que je voudrais, c'est partir un petit peu de l'énergie telle qu'elle est consommée, telle que vous en avez plus ou moins une perception dans votre vie quotidienne. Qu'est-ce que c'est que la consommation de l'énergie? Alors tout d'abord en France, en moyenne, le problème c'est qu'effectivement chacun a une façon et des quantités d'énergie consommées qui sont différentes. Tout le monde n'a pas les mêmes usages de l'énergie. Puis après j'élargirai à la problématique qui se pose dans le monde. Et après on parlera des problèmes qui sont liés à l'énergie. Alors tout d'abord, ce que je vais vous présenter, c'est un ménage. Alors, quand on dit un ménage, c'est en France, c'est les personnes qui habitent sous le même toit. Alors, en moyenne, il y a en France 25 millions de ménages. Vous savez, on est un peu plus de 60 millions de Français, et il y a 25 millions de ménages. Et ça peut être une personne célibataire, mais ça peut être un couple, ça peut être une famille avec un, deux, trois enfants. En moyenne, ça fait un peu plus de 2 personnes. Statistiquement parlant, ça fait un peu plus de 2 personnes qui sont un ménage. Et un ménage, qu'est-ce que consomme comme énergie un ménage et pourquoi il consomme de l'énergie en moyenne en France? Donc vous avez ici représenté d'abord un chiffre, un ménage français en moyenne consomme 8,7 tonnes de pétrole par ménage et par an. Alors qu'est-ce que c'est que 8,7 tonnes de pétrole? Vous savez que c'est du pétrole, on va le retrouver dans l'essence, etc. Donc 8,7 tonnes, vous voyez la densité du pétrole, c'est un peu plus léger que l'eau, donc vous avez à peu près une quantité 8,7 tonnes. Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on consomme cette énergie? Parce qu'on ne consomme pas que du pétrole, on consomme de l'électricité, on consomme du gaz, on consomme éventuellement du bois, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on consomme de l'énergie? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Donc ici, sur ce camembert, vous avez... On dit camembert, même si on n'est pas en Normandie, on dit camembert. C'est pas parce que je suis à Lisieux que je dis camembert. Vous avez la répartition des usages de comment on consomme de l'énergie. Alors, on va commencer par cette partie-là, puis on va tourner comme ça. Et si vous regardez, vous voyez d'abord que sur les 8,7 tonnes, pardon, les déplacements des personnes, c'est 1,5 tonnes. C'est-à-dire ça, c'est tous nos déplacements en voiture, en train, en avion éventuellement, ça représente une partie qui est déjà relativement importante. Une autre partie, c'est le chauffage des logements, on va se chauffer. Donc la première partie, pardon, c'est de l'essence, du diesel, c'est des carburants, ou c'est de l'électricité quand c'est un train. Le chauffage des logements, ça va être ce qu'on va effectivement consommer pour se chauffer dans nos habitations. Et ça, c'est du gaz, c'est éventuellement de l'électricité, c'est du fuel domestique. Ensuite, il y a une partie qui est importante aussi, qui va être pour tout ce qu'on appelle de l'électricité spécifique. Ça veut dire que c'est des usages où on est obligé de consommer de l'électricité parce qu'il n'y a pas autre chose. Donc pour s'éclairer, on ne s'éclaire plus beaucoup avec des bougies ou avec du fuel, c'est avec de l'électricité. C'est également les appareils électroménagers, tout ce qui est les téléphones, les rechargeurs de téléphones portables, etc. Tout ça, ça fait une partie aussi. Donc tout ça, c'est ce qu'on consomme, je dirais, quotidiennement dans notre maison ou dans nos déplacements ou dans notre vie privée, pourrait-on dire. Et puis après, vous avez toute une autre partie que nous ne consommons pas directement, qui est l'eau chaude et le chauffage à notre lieu de travail. Quand je dis le lieu de travail, ça peut être ici. Quand on est dans le lycée, on a du chauffage qui est aussi consommé, on chauffe, bah c'est bien pour se chauffer nous. Et puis toute une partie qui reste là, qui est l'énergie qui a été consommée pour fabriquer tous les produits qu'on consomme et tous les services qu'on fait. Quand on va au supermarché, qu'on remplit un caddie de produits, il a fallu consommer de l'énergie pour fabriquer tous ces produits, que ce soit des produits alimentaires, que ce soit des équipements, si on va acheter un appareil, tout ça, il a fallu le fabriquer, et donc ce sont des entreprises qui ont consommé de l'énergie, mais c'est bien parce qu'on en a besoin qu'elles sont fabriquées. Elles ne sont pas fabriquées uniquement pour le plaisir de les fabriquer. Et puis il a fallu les transporter avec des camions, avec des chemins de fer, etc. Et donc, vous avez aussi du transport. Donc ce schéma, c'est pour, plutôt que de commencer à vous parler de pétrole, de gaz, de charbon, je pense que c'est important de prendre conscience que l'énergie, finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de choses qu'on fait tous les jours, se déplacer, se chauffer, s'éclairer, et puis tous les produits qu'on consomme. Hein. Et donc vous voyez que cette partie-là est importante parce qu'on est directement responsable d'une certaine manière par tout ce qu'on va consommer ici. Mais ça aussi, un petit peu, puisque ce qu'on va acheter, en gros, si on achète des fraises qui sont en hiver et qui sont fabriquées à l'autre bout du monde, ou des produits qui viennent de très loin, bah vous imaginez bien qu'il aura fallu consommer beaucoup d'énergie pour les faire arriver jusque dans notre assiette ou sur les marchés où on va les acheter. Alors que si on achète quelque chose qui a été produit à tout près, on aura consommé moins d'énergie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France? Donc ça, c'était le point de vue d'un ménage, des particuliers, tel que vous pouvez vous en rendre compte tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Je passe au niveau d'un pays comme la France depuis 35-37 ans. Il y a eu des évolutions très importantes en France dans le domaine de qu'est-ce que un pays comme la France consommait comme énergie et consomme maintenant. Alors vous avez sur ce graphique ici, vous voyez, ici c'est les dates, donc on part de 1970. Dans plusieurs des graphiques que je vais vous présenter, il y a l'échelle du temps, et très souvent, il y a cette échelle qui part d'il y a 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans, d'ailleurs, en 73? Est-ce qu'il y en a qui sait ce qui est par rapport à l'énergie? Vous étiez sans doute pas né. Est-ce qu'il y en a de vous qui sait ce qui s'est passé en 73?
Oui. Choc pétrolier.
Très bien, tout à fait. Oui, en 1973, il y a eu ce qu'on a appelé le premier, parce qu'il y en a eu deux, le premier choc pétrolier. Parce que jusqu'en 1973, le pétrole coûtait de moins en moins cher. C'était quelque chose, on faisait un trou. Les premiers, c'était aux États-Unis, au Texas, on faisait un trou dans le sous-sol. Et puis, il y avait de l'or noir, comme on appelle, qui jaillissait. Après, on en a trouvé en Arabie, dans tous les pays arabes. Et puis, donc, le pétrole, ça coûtait quoi? Ça coûtait le prix de faire un trou. Et le pétrole sortait de terre et on l'utilisait. On le raffine pour faire de l'essence, on le met dans nos véhicules et ça servait à se déplacer. Et le pétrole a inondé en quelque sorte tous les pays, ça coûtait pas cher. Et ça coûtait de moins en moins cher. Et puis en 1973, à la suite de différents événements, notamment géopolitiques, les principaux pays producteurs qui étaient les producteurs des pays du Golfe Persique et de la péninsule arabique, ont estimé que ça ne coûtait pas si cher et que ce pétrole pouvait leur rapporter de l'argent. Donc ils ont dit, on va vous le vendre plus cher à vous, pays consommateurs. Et donc les prix ont augmenté très fortement. Et donc tous les pays occidentaux, les pays consommateurs qui n'en avaient pas, comme la France, comme l'Europe, l'Europe n'a jamais eu beaucoup de pétrole, se sont trouvés face à se rendre compte qu'ils étaient très dépendants du pétrole. Alors donc je reviens en 1970, donc à la veille du premier choc pétrolier, vous voyez, on est là. Et ça, si vous voulez, cette répartition, c'est la quantité d'énergie qu'on consommait en France en 1973. 150, alors 150 quoi? Tout à l'heure, j'évoquais des tonnes de pétrole. Hein, je disais 8,7 pour un ménage. Donc ça, pour toute la France, on va compter en millions de tonnes. Alors, on ne consomme pas que du pétrole. Hein, on consomme de l'électricité d'origine nucléaire, de l'électricité d'origine hydraulique, on consomme... Et on dit des tonnes équivalent pétrole. Ça veut dire que c'est des quantités d'énergie, que ce soit du pétrole, que ce soit du charbon, du gaz, du nucléaire, tout ça, on met une équivalence et c'est la même unité. Donc on consommait ça en 1970. Et vous voyez la partie jaune, je ne suis pas sûr que les couleurs ressortent bien, oui, la partie jaune, c'est le pétrole. Donc vous voyez, dans ce bilan, dans la totalité de ce qu'on consommait, il y avait du charbon, du pétrole, puis le reste, ce n'était pas grand-chose. Et donc là, il y a eu ce choc pétrolier. Donc vous voyez que depuis, et on arrive ici en 2006-2007, le pétrole a beaucoup diminué depuis 1973. La réaction de la France au moment du choc pétrolier, ça a été... Deux choses ont été faites à ce moment-là. Il y a quelque chose qui est resté en France comme très important, qui a été lancé juste après le premier choc pétrolier. Est-ce que c'est vous qui allez me répondre? Ah, monsieur là-bas.
Le nucléaire.
Voilà, le nucléaire. Le nucléaire, la France, après le choc, parce que les prix du pétrole ont monté, c'était de dire, vous voyez, tout ça... Parce que ça, à quoi il nous servait ce pétrole? Aux voitures, enfin aux voitures, aux camions, mais aussi à produire de l'électricité. Donc la première réaction du gouvernement de l'époque, ça a été de dire, il nous faut devenir indépendant, plus indépendant qu'on ne l'est là, puisque là c'était très très important, du pétrole. Et donc, a été de dire, on ne va plus consommer de pétrole pour produire de l'électricité, et on va lancer le nucléaire. Alors il y a eu le nucléaire, mais il y a aussi eu une politique d'économie d'énergie qui a été première politique, parce qu'il y avait beaucoup de gâchis. À cette époque-là, on pouvait construire une maison n'importe comment sans qu'elle soit isolée. Maintenant, on n'a plus le droit, il faut qu'elle soit isolée, il y a ce qu'on appelle des normes. Alors, la France a petit à petit réduit sa consommation de pétrole, mais en revanche, elle a beaucoup augmenté la consommation des autres énergies. Et vous voyez ce qui est ici, c'est justement la place du nucléaire qui s'est beaucoup développée, et le nucléaire qui était de l'électricité, et de l'électricité qui a servi à s'éclairer. À cette époque-là, l'électricité, on s'en servait pour s'éclairer, on s'en servait pour l'électroménager, mais on ne s'en servait pas pour se chauffer. Et puis du coup, on a utilisé même l'électricité pour se chauffer. Pas forcément un bon usage. Et donc, vous voyez ce qui s'est passé, mais ça a continué quand même à augmenter la consommation d'énergie. Même s'il y a eu un creux, vous voyez, le premier choc pétrolier, puis après aussi un petit plafond. Et donc, vous voyez comment, in fine, entre 1970 et 2004, le pétrole a beaucoup diminué, le nucléaire qui était presque inexistant a pris une place importante, le gaz a pris plus de place également, et puis le charbon a diminué aussi énormément en France parce que en fait, le charbon était utilisé pour faire de l'électricité, surtout de moins en moins pour se chauffer, et donc du coup c'est le nucléaire qui a pris sa place. Alors, autre façon de regarder ce qui s'est passé en France depuis 1970, c'est regarder par ce qu'on appelle des secteurs de consommation. Parce que l'énergie, tout à l'heure dans le camembert que je vous ai montré, il y a de l'énergie pour se déplacer, il y a de l'énergie pour se chauffer. On peut aussi répartir entre trois grands secteurs et puis un autre. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est que l'autre, le domaine énergétique. Le résidentiel et tertiaire, c'est tous les bâtiments. C'est les maisons, là où on habite, mais c'est aussi les lycées, les hôpitaux, les bureaux où on travaille. Donc ça, c'est la ligne verte. Et qu'est-ce que vous pouvez... Et on va les regarder après. Les transports, c'est la ligne bleue. L'industrie, c'est plus les entreprises qui fabriquent. Et puis dans l'énergétique, c'est en gros du pétrole pour faire du plastique. C'est la pétrochimie, ce qu'on appelle la pétrochimie. Et si vous regardez ces trois-là, qui sont les plus importants, vous voyez que l'industrie en jaune, elle a plutôt décru sa consommation d'énergie. Ça veut dire qu'on fait de moins en moins d'acier, de ciment, des choses qui consomment beaucoup, beaucoup d'énergie à fabriquer. On en fait de moins en moins, et on le fait avec de moins en moins d'énergie. Et puis, quand vous regardez le résidentiel et tertiaire, ce qu'on consomme dans nos maisons, là, ça a augmenté. Vous voyez, la courbe verte a augmenté, et de façon importante. Alors, on reviendra dessus, mais ça veut dire qu'on se chauffe mieux, plus efficacement aussi, mais in fine, on se chauffe plus. Ça veut dire surtout que tout ce qui est les consommations d'électricité ont beaucoup, beaucoup augmenté. Avant, on n'avait pas tous les appareils qu'on a maintenant. Les réfrigérateurs, au début, à ces années-là, étaient déjà diffusés, mais on n'avait pas tourné la machine à laver, etc. Et puis, tous les petits appareils qu'on a maintenant, les chargeurs de tous les appareils électriques, donc c'est des consommations qui croissent. Et puis, la courbe bleue, vous voyez, les transports, ça n'a pas arrêté de croître non plus. Donc, actuellement, on a des problèmes sur l'énergie, je vais revenir sur ces problèmes. Et bien, vous voyez qu'il y a deux secteurs qui posent des problèmes parce que justement ils en consomment de plus en plus. C'est le résidentiel et tertiaire et les transports. L'industrie, elle, a plutôt été, je dirais, un bon élève. Je dis un bon élève parce que je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à consommer moins d'énergie pour les mêmes satisfactions, la même richesse qu'on peut produire. Alors, je passe au niveau mondial sur la description de la consommation d'énergie au niveau mondial. Ici, vous avez, pour la France, vous voyez, j'avais donné un chiffre qui était de l'ordre de 150 millions de tonnes de pétrole, le graphique précédent, qui est ce qu'on consomme en France. Là, on va parler en milliards de tonnes de pétrole, d'équivalent pétrole. Et donc, vous avez ici, en l'an 2000, qu'est-ce qui était consommé dans le monde entier, la planète, qu'est-ce qu'elle consomme ? Parce que les problèmes de l'énergie sont, c'est pas en France qu'on a un problème spécifique sur l'énergie, c'est sur la planète entière. Donc vous avez la répartition, qu'est-ce qu'on consomme dans le monde ? Plus de 9 milliards de tonnes de pétrole chaque année qui sont consommées par l'ensemble de la planète. Et vous voyez la part. Donc vous voyez que sur le graphique précédent, il y a une énergie qui comptait presque plus pour nous, c'est le charbon. Et quand on regarde au niveau mondial, ben vous voyez le charbon, il fait 2,5 à peu près milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Je vais vous poser une question. Alors, quels seraient d'après vous des pays qui consomment beaucoup de charbon ? Oui, la Chine, oui, tout à fait. La Chine, elle a construit chaque semaine une centrale à charbon. Chaque semaine, une centrale électrique à charbon. Et puis, vous voyez que le pétrole, il représente une part importante. Et ça, maintenant, le pétrole, c'est pratiquement plus que dans les transports qu'il est consommé, mais dans les transports, on consomme pratiquement que du pétrole. Un peu d'électricité quand il y a des trains. Et puis, vous avez le gaz, qui est ici. Le nucléaire, et vous voyez que la part du nucléaire au niveau mondial, c'est pas grand-chose. L'hydroélectricité, c'est-à-dire les grands barrages, et puis les renouvelables, les autres renouvelables que l'hydroélectricité, c'est-à-dire la biomasse, le solaire, etc., qui représentent aussi une toute petite part de notre consommation d'énergie actuellement. Alors, il y a une chose qui ne figure pas dans ce graphique, c'est marqué là, c'est le bois de feu. C'est-à-dire dans les pays très pauvres, l'Afrique subsaharienne notamment, la principale énergie qui est consommée, c'est du bois de feu, c'est-à-dire pour cuire des aliments, et ça représente une part importante, puisque c'est de l'ordre de 1 milliard de tonnes. Vous voyez, ça fait en gros cette épaisseur-là sur le graphique, mais qui n'est pas comptabilisée ici, parce que ce n'est pas une énergie dite commerciale, elle n'est pas vendue, les gens vont déforester et produire de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde et qu'est-ce qui se passerait dans les années à venir ? Vous avez ici un graphique qui reprend, et là on ne sait plus pour la France, c'est le même graphique que tout à l'heure pour la France, sauf que là on est au niveau du monde. Et vous voyez déjà la pente. On part de 1970, on est ici à peu près, et puis là c'est 2030. Dans l'énergie, les énergéticiens font souvent ce qu'on appelle des travaux de prospective, des scénarios pour dire qu'est-ce qu'on va consommer en 2000, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Parce que quand on construit un barrage, c'est pas pour 5 ans, c'est pour très longtemps. Donc vous avez cette échelle de temps et on est au milieu. Et vous voyez qu'au niveau mondial, la pente de la consommation d'énergie, elle a cru fortement. Parce que il y a de plus en plus d'habitants sur Terre et que les pays qui avant étaient très peu développés se mettent à se développer, comme la Chine, comme l'Inde, le Brésil. Et donc, au fur et à mesure qu'ils se développent, ils consomment aussi de plus en plus. Donc vous avez et vous voyez que globalement, les énergies qui alimentent cette croissance des besoins, c'est quoi ? C'est du pétrole, du charbon, du gaz pour l'essentiel. Et ces trois énergies Moi, un handicap. Je vais en parler tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est lequel? Qu'est-ce que ces trois énergies, gaz, pétrole et charbon, ils ont en commun? Oui. C'est des énergies fossiles. Elles sont pas renouvelables. Et un autre, oui. Elles sont très longues. Et ça, c'est parce qu'elles sont fossiles, une énergie fossile. En fait, toutes ces énergies fossiles, elles viennent en fait des forêts qui existaient, qui se sont décomposées, et le carbone qu'il y avait dans les arbres, dans les feuilles, est devenu, s'est fossilisé, est devenu du charbon, éventuellement du gaz et du pétrole. Donc elles sont très longues à se former, et on les exploite à une vitesse beaucoup plus grande qu'elles ont mis. Elles ont mis des millions d'années à se créer, à se transformer à partir de la végétation qu'il y avait, qui a d'ailleurs disparu à des endroits où il y a ces mines. Et elles sont très longues, et puis aussi elles ont dedans justement du carbone. Et quand on... c'est donc des combustibles, on brûle du charbon, du gaz et du pétrole, et quand on les brûle, qu'est-ce que ça donne pour les chimistes? Du CO2. Voilà, ça donne du CO2. Et donc toutes ces énergies donnent un gaz qui n'est pas le CO2, hein. C'est pas un gaz toxique, il y en a dans toute la pièce ici autour. Sauf que si on augmente beaucoup sa présence dans l'atmosphère, ça conduit à un réchauffement de la planète, et c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. On va y revenir tout à l'heure. L'évolution aussi, il faut bien voir cette évolution. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure, avec les années en bas, et puis les consommations. Sauf que, ici, c'est la différence, en 1972, qui consommait de l'énergie, entre la partie bleue, c'est ce qu'on appelle l'OCDE. L'OCDE, c'est les pays riches, les pays développés. Et la partie rouge, mauve, c'est les autres pays. Donc en gros, c'est les pays en développement, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique, mais aussi la Russie qui n'est pas dans l'OCDE, etc. Et vous voyez qu'en 1972, à peu près les deux tiers étaient consommés par l'OCDE. L'OCDE, c'est 1,5 milliard d'habitants. En 2002, c'est un peu plus l'OCDE que le reste du monde. Donc il y a 5 ans. Maintenant, ça a déjà basculé. Plus de la moitié de l'énergie est consommée par des pays en dehors de l'OCDE. Et en 2030, vous voyez que toute la croissance... Donc si vous voyez la partie bleue, elle croît, mais pas aussi vite que l'autre. Ce qui est tout à fait normal, parce que l'OCDE, encore une fois, c'est un milliard, peut-être 2 ou 3 d'habitants, alors que au total, on va avoir dans les autres pays 5 milliards d'habitants. Donc ce sont des habitants qui étaient très pauvres, qui se développent, qui donc vont consommer de plus en plus d'énergie. Alors, disons quelques mots des enjeux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'actuellement on parle tous les jours pratiquement d'énergie? Pourquoi l'énergie devient chère, si chère? Alors, premier problème, la raréfaction des ressources, notamment du pétrole et de gaz. Ici, c'est pour vous montrer ce que les experts, ceux qui sont des experts sur les réserves pétrolières, ils estiment qu'on a dans le sous-sol, puisque ces énergies sont fossiles, elles se sont formées pendant de nombreux millions d'années, et on est en train de les extraire très très rapidement. Donc, il y a des experts qui ont essayé de prendre en compte quelles étaient les découvertes, puisque ce pétrole, on ne savait pas toujours où il était, donc on a de plus en plus de techniques pour savoir où on peut trouver des champs de pétrole, et comment on va identifier ces champs, comment on va les forer. Donc, ils ont fait des calculs sur les découvertes de champs de pétrole, vous voyez, c'est la courbe verte, et avec les petits losanges verts. Et ce qu'on voit, c'est que cette courbe, elle est passée par un maximum, et maintenant, elle décroît. On en trouve de moins en moins. Et puis, la production, c'est la courbe qui est... Attendez, voilà, c'est cette courbe-là. Donc, on produit de plus en plus, c'est-à-dire qu'on en exploite. Et donc, ils ont fait une espèce de modélisation pour essayer de se rendre compte, qu'est-ce qui va se passer. Et le résultat, c'est qu'il y a un pic. Ils disaient, ça c'était il y a déjà 6-7 ans qu'ils ont fait cette courbe. Ils se sont dit, on va passer par un pic. Puis après, on va décroître parce qu'il y aura physiquement de moins en moins de pétrole. Si on en trouvait toujours de plus en plus, donc le fait est qu'on n'en trouve plus de plus en plus. Notamment des grands champs comme en Arabie Saoudite. Donc, on devrait passer par un pic et après décroître. Alors, il y a beaucoup de débats pour savoir quand ça serait. Ce pic. Parce qu'à partir du moment où on passe le pic, c'est vrai que ça va devenir tendanciellement toujours de plus en plus rare à retrouver, donc de plus en plus cher d'avoir du pétrole. Et alors la date, c'est entre les experts, il y a encore des débats, ce sera en 2020, ce sera en 2015. Et le patron de Total a dit il n'y a pas longtemps, ben, c'était peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire cette année ou l'année prochaine, qu'on atteindrait ce pic. Parce qu'on ne se rend pas tout de suite compte, mais que la production va commencer à décroître de pétrole. Donc, c'est peut-être pas en 2008, mais c'est quand même dans les années qui viennent qu'on devrait avoir un problème. Alors, en fait, on aura toujours du pétrole sur Terre, mais il deviendra de plus en plus difficile, de plus en plus cher, parce qu'il faudra aller de plus en plus profond. Ce sera du pétrole, ce sera plus du pétrole très fluide, ça va devenir des schistes, ce qu'on appelle des schistes bitumineux, c'est-à-dire du pétrole dans du sable, en gros. Donc il va falloir séparer le pétrole du sable, ça va devenir de plus en plus cher. Donc il y en aura toujours, mais sûrement de plus en plus cher. L'autre problème de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique, l'effet de serre qui, je ne sais pas si vous l'avez appris en classe, qu'est-ce que c'est que le phénomène de l'effet de serre? Un peu? Donc, c'est la Terre est entourée d'atmosphère, toutes les planètes n'ont pas d'atmosphère autour d'elles, la Terre a une atmosphère qui permet qu'il y ait de la vie sur Terre. Et l'atmosphère, c'est des gaz, il y a de la vapeur d'eau, il y a du CO2, il y a différents gaz qui font que le rayonnement du Soleil, il traverse, c'est un rayonnement visible, il traverse cette couche d'atmosphère, et quand il touche la Terre, il est réfléchi vers le ciel. Il est réfléchi vers le ciel, mais ces gaz empêchent que la totalité du rayonnement de la Terre reparte vers le ciel. Donc il y a une partie qui reste entre la Terre et l'atmosphère. Et ça sert à chauffer la Terre. C'est comme ça qu'on a en moyenne 18 degrés et qu'il y a de la vie sur Terre. Le problème, c'est que depuis 150 ans à peu près, l'homme consomme de plus en plus d'énergie, produit du CO2, et que ce CO2, qui est un gaz qui bloque toute l'énergie que la Terre renvoie vers le ciel, et qui fait que la Terre reste à peu près chaude, et bien il y en a de plus en plus, et donc elle reste de plus en plus chaude, elle devient de plus en plus chaude. Alors, ça, les scientifiques ont regardé quelle était la température de la Terre depuis, vous voyez, 1000 ans. Vous allez me dire, mais il n'y avait pas de thermomètre. Si, on savait faire, on sait comment mesurer quelle était la température de la Terre il y a 1000 ans, en faisant des trous dans les calottes glaciaires, dans les carottes glaciaires, en faisant des carottages dans les glaciers. Je ne m'étendrai pas là-dessus. On y reviendra si vous avez des questions. Mais on a regardé quelle était la température moyenne du globe depuis 1000 ans. On sait le faire depuis 400 000 ans. Et on a vu que la température, elle évoluait. Certes, il y avait des périodes glaciaires, interglaciaires. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est que depuis là, donc depuis 1850, la température commence à croître et de plus en plus vite. Et ça, c'est mis en évidence avec une concentration du CO2 dans l'atmosphère. Encore une fois, le CO2, il était présent naturellement, et c'est grâce à ça qu'il y a la vie, sur Terre, mais il a été mis de plus en plus dans l'atmosphère par l'homme qui a brûlé du pétrole, du charbon et du gaz. Et les scientifiques, donc on a vu qu'il y a une augmentation de la température depuis 100 ans à peu près, mais pas beaucoup, un peu moins d'un degré, mais qui est une augmentation de température qui est maintenant par les scientifiques attribuable à nos consommations d'énergie, pas seulement, aussi à d'autres activités, mais pour 80% c'est dû aux consommations d'énergie et aux combustibles fossiles qu'on évoquait tout à l'heure. C'est les scientifiques qui travaillent dans ce qu'on appelle le mouvement intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui a conduit à la conférence de Rio de Janeiro en 1992, au protocole de Kyoto en 1997, et qui est actuellement discuté pour savoir comment on va ralentir ce réchauffement avec tout ce qu'il a, tous les impacts qu'il a, les phénomènes climatiques extrêmes, etc. Et les scientifiques, là encore, font des modèles, c'est-à-dire qu'ils essayent de voir qu'est-ce qui va se passer au cours du 21e siècle. L'échelle, c'est un siècle, à peu près. De ce qu'on est capable d'imaginer, et aussi de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer. Et donc, vous avez ici, vous voyez, c'est le réchauffement global. Donc, le réchauffement global, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de la température actuelle, et puis, donc la température actuelle, c'est zéro, par définition, c'est pas zéro degré, mais on part d'une température actuelle, et puis CO2, ça veut dire que ça se réchauffe, et de combien? Et donc, voyez, le zéro, il correspond à maintenant, hein. Enfin, 2000 à peu près. Mais en 1900, on était en dessous par définition. Donc, on s'est déjà réchauffé de ça. Ça, c'est ce qu'on a mesuré sur Terre, en moyenne. Et puis, les scientifiques disent, ben oui, voilà quelle peut être l'évolution d'ici la fin du siècle, vous voyez, jusqu'en 2100. Et donc, en 2100, sur les trajectoires sur lesquelles on est, c'est pas celle-là. Ça, c'est celle qu'il faudrait pour qu'il n'y ait aucun risque pour la survie de l'homme sur Terre. Les scénarios qu'ils ont étudiés, c'est ça et ça. Donc, c'est entre 2,5 en gros, 2 et puis 4 à 5 degrés d'augmentation de température. Et ça, par rapport à la nuit, au jour, par rapport à l'été, l'hiver, ça paraît très peu de choses. En fait, c'est énorme comme différence de température. Parce que l'impact d'un réchauffement de quelques degrés, c'est des modifications gigantesques, surtout avec cette rapidité. C'est en un siècle, d'habitude, entre les périodes glaciaires et interglaciaires, il s'écoulait des dizaines, des milliers d'années. Là, ça va être en un siècle que ça va se réchauffer. De combien, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a des incertitudes, ils ont fait des scénarios et on est sur ces trajectoires. Le seul problème actuellement, c'est que vu les consommations d'énergie depuis 4-5 ans, la courbe depuis 4-5 ans des consommations d'énergie et des émissions de CO2, elle est au-dessus de la courbe rouge. Donc on va vers des situations où on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui contestent que ce n'est pas dû à l'homme, que ça ne se réchauffe pas, etc. Il y a des débats. Mais ça, ces résultats, c'est un groupe d'experts internationaux qui ont débattu ensemble et disent 99,8% de chances que le réchauffement qu'on a eu, c'est attribuable à l'homme et qu'on va se réchauffer au moins dans cette gamme de température dans le futur. Donc, il faut faire quelque chose, même si on ne sait pas à quel degré ça va être. Alors, c'est compliqué de faire quelque chose. Alors, sur les impacts, je ne fais pas aujourd'hui une présentation sur l'effet de serre. Les impacts, c'est l'élevée du niveau des océans, c'est le fait qu'il y aura plus de sécheresse en France. On commence maintenant à savoir ce que ça devrait faire. Des étés plus secs, des hivers plus humides, en moyenne une température plus élevée. Et ça peut aller dans certains endroits avec des températures plus froides, parce que un des risques, c'est aussi, je ne sais pas si vous avez vu le film d'Al Gore sur... une vérité qui dérange, c'est très intéressant, je vous conseille d'aller le voir. Et alors, pourquoi c'est compliqué de faire quelque chose? Parce que quand vous regardez les émissions de CO2 par tête d'habitant dans la planète, est-ce qu'on est tous égaux par rapport au CO2? Ben non, parce que vous avez ici les différents pays qui sont regroupés, ou régions du monde, qui sont regroupés sur un rectangle. Et puis, le niveau, c'est les émissions de CO2 d'un habitant pendant un an. Donc ici, ce sont ceux qui émettent le plus de CO2. Comment ils l'émettent? C'est pas qu'ils le font, c'est, j'allais dire, de façon volontaire, c'est à travers leur consommation d'énergie, de pétrole, de charbon et de gaz. Ils émettent, un Américain, c'est là, les Américains du Nord, 19 tonnes de CO2 par an. Puis vous prenez d'autres pays ici, ça c'est le Japon, après vous avez l'Europe, ici. Donc, entre un Américain et un Européen, bon, il y a des différences de niveau de vie, mais pas énormes. Vous voyez qu'en termes de CO2, ça change énormément, puisque on est en Europe à peu près à entre 7 et 8 tonnes de CO2 par an et par habitant, et en Europe, et en Amérique, à 19. Pourquoi? Parce qu'ils ont des plus grosses voitures, parce qu'ils roulent plus, parce qu'ils se climatisent, ils chauffent, etc. Et puis, vous avez après les autres pays. Donc, on a l'Europe, après le Moyen-Orient. Ici, vous avez la Chine, les Chinois. Et alors, pourquoi des détails de rectangle qui sont différents? Parce que c'est la population. Donc, en fait, ça veut dire que la surface du rectangle, c'est les émissions du pays, puisque c'est un niveau par tête multiplié par le nombre d'habitants qui est ici. Donc, en fait, quand tout à l'heure j'évoquais l'OCDE, les pays développés, c'est jusque-là. Donc, vous voyez, en population, ça fait 1,5 milliard, quelque chose comme ça. Et puis tout le reste, ça, c'est tous les habitants du tiers-monde, les pays en développement, la Chine, et tous ces pays-là, ben, vous voyez, ils sont bien en dessous de la moyenne, et qui vont se développer. Donc effectivement, on peut espérer qu'ils vont se développer avec des techniques moins consommatrices d'énergie, mais in fine, de toute façon, ça va quand même augmenter. Donc, ils vont grimper. Et si de ce côté-là, on ne descend pas, l'équilibre va quand même être problématique. Donc tout le problème qu'il y a actuellement, c'est déjà, on émet trop de CO2 dans l'atmosphère, il y a déjà un réchauffement. Comment faire en sorte que tous ces pays puissent se développer sans qu'on augmente? Parce qu'à la limite, si tout se développe, ce qu'il y a, c'est que tout le monde va arriver là, et le rectangle, ce sera tout ça. Donc ça, ce serait la catastrophe. Et ça, c'est la courbe qui présente effectivement les tendances des émissions entre les pays, nos pays de l'OCDE, c'est-à-dire ces pays, c'est l'or rouge dans les pays développés, et puis le vert, c'est les pays en développement qui, eux, commencent à croître de plus en plus vite. Voilà. Je vais vous dire deux mots, mais m'arrêter très bientôt sur cette troisième partie, parce que on a pris du retard, puis je voudrais qu'on puisse avoir des questions. Donc je vais passer vous dire quelques mots en conclusion de mon intervention, puis vous écoutez, de ce qu'on fait en France pour lutter contre le changement climatique. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle le protocole de Kyoto. Alors c'est face à ce problème, notamment le changement climatique, tous les pays du monde se sont rassemblés dans des lieux de conférence, et notamment une à Kyoto en 1997, et on signait des engagements pour limiter les émissions. Ça allait à l'horizon de 2010. Vous savez que les États-Unis ne l'ont pas signé, ne l'ont pas ratifié, l'Australie non plus, que les pays du Sud, comme la Chine et l'Inde, n'ont pas voulu prendre leurs engagements. Donc on est actuellement dans une posture, dans une phase où on essaye de trouver un nouvel accord international pour limiter le fait que les émissions croissent de plus en plus et qu'on consomme moins d'énergie, puisque l'énergie, c'est 80% de l'augmentation du réchauffement et de l'effet de serre. Donc il faut négocier avec les pays, mais il faut être exemplaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dire aux Chinois, aux Indiens, écoutez, vous êtes trop nombreux, vous ne pouvez pas vous développer comme nous, si nous, on ne change pas notre attitude. Donc, ce que une politique soit essaye de faire en France, c'est de limiter les émissions. Alors, limiter les émissions, ça peut être deux choses. Des énergies qui n'émettent pas de CO2. Quelles énergies n'émettent pas de CO2? Qui peut en citer une ou deux? Est-ce qu'il y a des énergies qu'on peut consommer sans émettre de CO2? Oui. L'énergie éolienne n'émet pas de CO2. L'énergie solaire n'émet pas de CO2. La biomasse n'émet pas de CO2, c'est un peu compliqué parce que la biomasse, quand on la brûle, elle émet du CO2, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle en a fixé par la photosynthèse. Donc le bilan est nul. Il y a aussi une autre énergie qui n'émet pas de CO2, c'est le nucléaire. Est-ce que vous allez dire? Ah oui, le nucléaire n'émet pas de CO2. Alors il y a d'autres problèmes, il y a des déchets nucléaires, il faut savoir quoi en faire pour le long terme. Donc aucune énergie est parfaite. Mais le nucléaire n'émet pas de CO2. Seulement, en France, on a déjà 80% de notre électricité qui est fabriquée avec du nucléaire. Donc, 80% plus. Normalement, c'est la base, donc on ne peut pas utiliser, nous, plus d'énergie nucléaire. D'autres pays pourraient en utiliser davantage et avoir moins de CO2. Ça pose aussi des problèmes de prolifération, parce que l'énergie nucléaire, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Mais le fait est que ça n'émet pas de CO2. Donc il y a des débats. Alors, actuellement, en France, on voit que, et vous avez vu les graphiques tout à l'heure, là où on émet le plus de CO2, et là où l'énergie a cru beaucoup, c'est les logements, le bâtiment et les transports. Donc c'est les deux axes. Vous avez dû entendre parler récemment du Grenelle de l'environnement, qui est donc une concertation qui a été lancée par le ministre Borloo pour essayer de voir comment, qu'est-ce qu'on peut faire et qui est prêt à faire quoi. Donc c'était une concertation où il y avait des politiques élus, le gouvernement, les ONG, les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire les associations écologistes, le patronat, l'EDF, et les syndicats, et pour essayer de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Et les principales conclusions, elles portent sur le bâtiment, comment avoir des bâtiments de plus en plus efficaces dans le futur, de façon à réduire les consommations d'énergie des bâtiments. Et vous avez vu ce que ça consomme un logement, tout à l'heure, je vous ai montré. On sait qu'en 2030, on pourra faire, et même avant, en 2020, des bâtiments à énergie positive. Ça veut dire quoi, un bâtiment à énergie positive? C'est un bâtiment dans lequel il sera tellement bien isolé, et on aura mis des énergies renouvelables comme du photovoltaïque, des capteurs solaires, que, in fine, il produira plus d'énergie qu'il en consommera. On sait qu'on pourra le faire. On a des technologies. C'est une question un peu de surcoût, mais on sait qu'on va y arriver. Donc là, il y a un enjeu énorme dans le bâtiment. Avec un problème, c'est qu'il faut que tous les professionnels du bâtiment sachent comment utiliser ces techniques, donc un gros problème de formation. Le deuxième grand secteur sur lequel on a des problèmes, c'est les transports. Et là, en revanche, on n'a pas de solution immédiate. On n'a pas de solution parce que l'essentiel des consommations d'énergie dans le transport, c'est la voiture et les camions. Et on n'a pas d'alternative immédiate. Et donc là, il faut à la fois voir comment limiter l'usage de la voiture, utiliser les transports en commun. Mais on ne peut pas mettre des transports en commun pour aller à Paris, bien sûr, ça fonctionne. Mais à Lisieux, vous imaginez bien que pour de Lisieux à Orbec, on peut avoir un car, mais on ne peut pas avoir plein de transports en commun. On ne va pas mettre un métro ou un tramway. On peut en mettre éventuellement un dans des villes. Donc il y a un problème. Comment faire autre chose que de la voiture? Comment organiser les déplacements? Et il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et puis peut-être inventer la voiture de demain avec des énergies qui ne feront pas de CO2. Voiture électrique peut-être, comment faire l'électricité, voiture à hydrogène, mais comment faire l'hydrogène. Donc le secteur des transports est un secteur qui est très très difficile et qu'on n'a pas, comme dans le bâtiment, une image précise de comment sera la voiture, comment sera le véhicule, comment on va se déplacer demain. Donc tout ça, ça implique de faire de la recherche, bien sûr, mais ça implique aussi de prendre dès à présent des mesures qui sont des mesures réglementaires, d'interdire certaines choses, des mesures économiques, de dire, ben voilà, il faut que chacun sache qu'une voiture, si elle est très puissante et qu'elle consomme beaucoup d'essence, eh ben, qu'elle émet beaucoup de CO2, et donc peut-être mettre une taxe sur les grosses voitures, puis une aide, une subvention pour les petites voitures. C'est ce qui a été annoncé qui va se faire. Je ne détaille pas plus parce que je voudrais qu'on ait un débat. On viendra, j'ai quelques autres diapos à vous montrer qui sont dans les transparents que je voulais vous laisser. Mais je voudrais que maintenant on ait peut-être plus un échange. Mais peut-être faire une petite pause de 3-4 minutes. Et puis après, on reprend. Et vous avez des questions. Et puis on pourra revenir peut-être justement sur ces mesures qui sont actuellement en discussion dans le Grenelle. Et que vous donniez votre point de vue aussi là-dessus. Alors, 5 minutes, je regarde les... Ça va ? À tout de suite.